Bonsoir. Bon, faut pas que je parle trop près. Je suis très très heureux de faire la présentation, l'ouverture, qui sera brève, d'Ipsitan, parce que le livre que je vais présenter, en fait il y en a deux, mais je développerai un petit peu plus tard, dans un instant, la relation entre les deux livres. Le livre que sur lequel je vais me centrer et qu'on s'est mis d'accord, ce sera effectivement l'essentiel de cette soirée. Ce livre m'accompagne depuis, je sais pas, 3 mois, je crois, depuis qu'on m'a demandé de faire la présentation. Et c'est un livre que je trouve très riche, parce que c'est un livre qui fait travailler. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est carré, qui est bloqué, qui est fermé. On n'est plus dans un processus de pensée. Et c'est vraiment le processus de pensée, moi, qui m'intéresse. Donc là, je trouve que cette énergie qui est contenue dans le livre, l'ensemble des concepts qui sont abordés, les idées multiples, il y a de quoi puiser, et pour chacun d'arriver à avoir sa lecture, se centrer plutôt sur telle partie ou sur telle autre. Et en plus, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, et en même temps difficile, c'est que chaque fois que dans tous les chapitres, je tournais une page et brusquement je me mettais à repenser à des choses que j'avais vécues. C'est-à-dire que ce qui était le contenu de ce livre faisait appel à mon vécu, mon expérience, ma sensibilité, mes relations avec mon métier, avec les autres, puisqu'il est question aussi des autres. Et c'est toute la force de ce livre. Alors, ne serait-ce déjà que dans son titre, Gestes d'humanité, anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, il y a déjà beaucoup à dire. Alors, il y a aussi une coïncidence que je trouve très heureuse entre le thème de la biennale, c'était l'empathie ou l'expérience de l'autre, et le contenu, le thème principal de ce livre. Parce que je pense que nous sommes actuellement, d'une manière plus concentrée peut-être que fut un temps, enfin, du moins, je le ressens comme ça, moi qui ne suis pas un philosophe, hein, je suis simplement un lecteur assez dilettante, mais passionné de la philosophie. Je pense qu'effectivement, la question de l'autre, la façon de se situer par rapport à un autre ou peut-être des autres, est importante. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'un individu? Comment définir un individu au sein d'une collectivité? Quelle est la part de porosité entre nos vies, nos limites et celles des autres? On a déjà ça avec Simondon. Gilbert Simondon aborde ça dans tous ses livres sur l'individu. Il l'aborde d'une manière plus. En prenant des exemples avec la biologie, avec l'informatique, etc., etc. Ce n'est pas le cas de Yves Citton, qui, lui, est quand même enseignant de littérature et qui prend souvent des exemples dans la littérature, mais aussi dans la peinture, parce qu'il a un intérêt très très large pour ceux qui l'entourent. Alors donc, ce livre qui s'appelle « Le geste d'humanité », il a été précédé très peu de temps avant, c'était en août 2012. Je crois que c'est ça, par un livre qui s'appelle Renverser l'insoutenable. Dans Renverser l'insoutenable, il y a deux parties. La première partie, c'est politique des pressions. Donc c'est une sorte de, disons, de constat, d'état, d'analyse de l'ensemble des pressions que nous subissons et qui est suivie par la politique des gestes. Et cette politique des gestes, donc c'est, en fait, c'est la troisième partie, c'est quasiment l'introduction, le préambule du livre suivant, qui est développé donc dans Gestes d'humanité. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, si, il faudrait quand même un peu présenter Yves Citton, qui est d'origine, donc qui est genevois, c'est ça, qui ensuite a vécu aux États-Unis un certain nombre d'années, donc 12 ans à Pittsburgh, un an à Yale où il a enseigné. Là, il a fréquenté donc la philosophie américaine, et ça se sent dans le livre, dans le nombre de références. Et c'est pas tant les philosophes que les anthropologues. L'anthropologie américaine est très intéressante, et donc il s'en sert bien. Il n'abandonne pas non plus les références qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire les nôtres, avec des gens comme Bertrand Meeus, et puis Descola, etc., etc., anthropologue, bien évidemment aussi qui c'est qu'on a vu déjà au musée bon, bah, peu importe.
On cite beaucoup de gens, donc.
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont cités, et c'est. Mais le chemin, le fil, puisqu'il est beaucoup question de fil, il est beaucoup question de trame, il est question de mycélium à un moment. Le fil est là en permanence, mais il est ouvert, il n'est pas encore complètement tendu. Il est lâche. Il donne la possibilité de d'améliorer cette pensée qui joue sur le paradoxe. Tout comme quand on est comédien, on est dans une situation paradoxale entre la personne que nous sommes nous et puis le personnage. Voilà. Et donc c'est ce genre de paradoxe là que je trouve intéressant et qui fait la force de ce livre. Yves Citon participe aussi à la revue Multitude. La revue Multitude qui rassemble un grand nombre d'auteurs. Multitude, voyez à peu près donc l'intitulé aussi qui donc souligne la multiplicité des pensées, mais également une actualité. On pense l'actualité, on pense la différence des sexes, l'économie, etc., etc. Donc on est vraiment dans la pensée contemporaine. Et c'est, je crois qu'il y a de quoi puiser aussi dans cette revue. J'ai dit que je me limiterai, je me tiens à ce que j'ai dit. Je vais lire, pour lancer la discussion, pour lancer la prise de parole de Yves, un texte de Fred II. Fred II est quelqu'un qui est assez peu connu. Il a écrit un ou deux livres, je crois. Ce n'est pas ce qui est de plus important. Il a surtout été connu pour sa production, son travail de graveur et de peintre. Il est mort depuis une vingtaine d'années et il a écrit une série de poèmes, dont un qui s'appelle « L'icône ». Combien y a-t-il de façons pour aborder la feuille où viendra le dessin ? Combien y en a-t-il pour recevoir, accueillir, inviter les formes ? Combien y a-t-il de gestes, de mots à écrire et à prononcer pour mettre en confiance ce qui n'a que faire de moi, à moins que quoi ? Il suffit d'imaginer. Un homme est assis. Son sang coule en lui comme il coule en d'autres. Ses yeux voient, ses mains sont à plat, il ne progresse ni ne régresse, il n'est poussé que par cette attente. Depuis qu'il est né, il attend. Cela ne lui paraît plus aussi long à présent qu'il est le support. Il sait qu'à force d'insistance, il est dans l'ombre de l'attente, sans se désespérer de ne pouvoir la nommer. S'éloignant des questions, il a appris à se méfier de lui et du simulacre. Un mot manque pour qu'il dise ce qu'il est au fond de lui et qui reste invisible et inconnu. Ses membres l'aident sans qu'il sache à quoi. Ils sont reliés à ce qui leur échappe et cette union le laisse libre. Il sent ou il sait que ce qui peut paraître contraire est la preuve de ce qu'il est, dans ce qu'il fait. C'est une explication inexplicable. Alors moi, avec les moyens qui m'ont été donnés, avec ce que j'ai dû et pu prendre ici et là, je suis assis, éveillé et endormi, à dire, je le dirai jusqu'au bout qui sera le mien, que je fais usage de ce qui m'a été accordé pour célébrer ce qui est diffusé et qui est infusé. Je sers de récipient. Je n'ai pas d'expérience à transmettre. Je ne cherche pas l'origine des choses. Je fais scrupuleusement un travail d'approche qui rapproche. Je suis assujetti à une loi inconnue que je ne peux ni ne veux briser. Le crayon, ou la plume, ou d'autres outils, sont les seuls intermédiaires qui aient voulu rester près de moi. Je cerne ce qui est venu, rarement ce que j'ai imaginé. Je ne témoigne qu'avec honte. Je ne découvre pas, je soulève, je ne juge pas, je regarde. Une forme laide ne l'est jamais. Si elle semble l'être, c'est qu'elle a été prise maladroitement, brutalement, étreignée. On ne rapporte que ce qui est attendu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de me faire venir pour vous parler. Merci à vous de venir dans une soirée qui est ensoleillée et ça va être difficile de rivaliser avec le soleil et le bonheur qui est dehors. Merci aussi pour cette introduction et le petit texte. Ce que je vous propose peut-être, c'est que je commence par essayer de préciser ce que j'entends par geste et pourquoi c'est intéressant. Ça me semble intéressant. Ce sera à vous de voir si vous partagez cette opinion et à essayer de reprendre quelques-uns des termes que tu viens de lire, donc dans ce poème de Fred II. Alors, je vais partir peut-être d'un élément de ce poème. Vous avez entendu qu'il dit « je sers de récipient ». Et peut-être qu'une intuition qui, moi, me semble riche, c'est de se dire « qu'est-ce que nous sommes ?» Il y a des grands problèmes d'identité aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Comment on se définit ? Comment on se singularise ? On est pris dans des sortes de flux d'images, flux de médias. On est tendu entre des obligations souvent contradictoires, entre une famille, entre un emploi, entre des choses qu'on aimerait faire pour soi-même, etc. Donc, on est traversé par des flux, on est tendu. Il me semble qu'on définit d'habitude l'identité par opposition à ça. On voudrait pouvoir être quelque chose qui tient tout seul, quelque chose qui est ferme en soi et qui s'extrait de ces flux ou de ces tensions. Et moi, ce qui me semble possible aussi, c'est de se dire, ça va être difficile de s'extraire de ces choses-là. Si on s'extrayait de ceci, ben on serait plus grand-chose, parce que justement, nous sommes relations avec des parents, des enfants, des amis, des collègues, des voisins. Donc, définir l'identité contre ce qui nous tend, ce qui nous tire, ce qui nous tiraille, ce qui nous traverse, ça va être difficile. Essayons peut-être de se dire, l'identité, elle se définit comme une sorte de filtre, comme une sorte de principe de sélection, à savoir qu'il y a plein de choses qui nous traversent, c'est comme ça qu'on vit, même pour la nourriture, il faut boire de l'eau, il faut manger de la nourriture, puis ça nous traverse, et c'est ce qu'on arrive à filtrer dans ce qu'on boit, qu'on mange, qu'on respire, mais aussi bien ce qu'on entend, qui définit notre identité. Donc disons identité comme filtre, comme principe de filtrage. Donc finalement, qu'est-ce que je suis ? Moi, je suis un récipient. Et tu disais, ce livre, alors tu cherchais à qui je faisais référence ou qui je citais. Pour moi, les livres, c'est, je passe ma vie à lire des choses, je suis ennuyé par plein de choses que je lis, et puis enchanté par d'autres choses. Et donc un livre, pour moi, c'est d'abord essayer de reprendre ces choses qui m'ont enchanté, en me disant que peut-être que d'autres pourront trouver ça intéressant. Comme tu as dit très gentiment, peut-être que ça résonne avec certaines choses qui sont en toi, quand tu l'as lu, ça te fait penser à d'autres choses. Et donc mon livre ou mon travail, c'est de faire une sorte de récipient. Alors ce récipient-là, il est sur les gestes, enfin c'est deux récipients-là, ils sont centrés autour de la notion de geste, et peut-être que j'ai envie de vous dire comment je suis arrivé à réfléchir à cette notion de geste, et en espérant que ça peut résonner avec des problèmes, avec des questions que vous vous posez aussi. J'étais parti d'une sorte de désarroi face à la politique. C'est un petit peu ça, ce livre qui s'appelait « Renverser l'insoutenable ». Dans une première partie, je faisais une liste de choses qui me semblent... Alors, j'ai repris ce mot insoutenable qui vient en fait de l'anglais où on parle de mode de développement non durable. En français, on dirait non durable. Développement durable ou non durable, justement. Durable, c'est que on consomme des ressources et on reproduit des ressources de façon que ça puisse se maintenir dans le temps. Au contraire, non durable, on utilise plus que ce qu'on remet dans le circuit. Et donc ce mot d'insoutenable, il apparaît de temps en temps en traduction de l'anglais. Il y a du bruit, non ? Ça va, vous entendez ? Il y a une petite vibration, non ? Ça va ? Ok, moi j'entends dans des voix. Donc ce mot d'insoutenable, d'abord, c'est l'insoutenable écologique. On brûle trop de choses qui produisent trop de CO2 et ça risque d'augmenter la chaleur, de faire monter le niveau des mers, des villes qui passent sous l'eau, des populations qui doivent migrer, des tensions, des guerres, etc. Donc il y a un insoutenable écologique, environnemental qui me semble être de plus en plus évident pour nous tous. Mon idée, c'était de décliner cet insoutenable dans d'autres domaines. Il y a aussi des choses qui sont insoutenables dans les inégalités sociales à l'intérieur d'un même pays, comme par exemple la France. Le fait que des gens gagnent des millions et des millions, que d'autres gens travaillent beaucoup et gagnent très peu, ça met toute la société sous tension, des tensions qui peuvent, qui deviennent déjà, qui risquent de devenir de plus en plus insoutenables.
Mais il y a aussi un troisième type d'insoutenable que j'ai envie de situer entre nos régions qui, même si elles vivent aussi dans des inégalités profondes, sont quand même relativement aisées, avec d'autres régions du monde qui reproduisent ces inégalités entre parties du monde au niveau géopolitique. Troisième niveau d'insoutenable. Quatrième niveau d'insoutenable, à l'intérieur de nos têtes à nous, je parlais tout à l'heure de tiraillement, de tension, il y a ces phénomènes qui s'appellent le burn-out, peut-être que vous en entendez parler, où on travaille tellement, où on est tellement stressé que finalement tout d'un coup, soit on explose, soit plutôt on implose, on se met à pleurer pendant des jours, on sort plus de chez soi, on peut plus travailler, on peut plus ouvrir un téléphone, donc dépression, burn-out, stress, etc., etc., ça c'est quelque chose d'autre qui est insoutenable. À l'intérieur, on pourrait se dire, de nos têtes, de notre système nerveux, mais on voit bien que c'est une relation, de nouveau, entre moi comme individu, mon système nerveux et mon cerveau, et les autres qui me tiraillent, mes amis, mes enfants, mes patrons, mes voisins, mes clients, etc. Et le dernier, il y avait 5 niveaux d'insoutenable, le dernier, ça serait pour moi ce que les images qui circulent entre nous ont souvent, alors d'insoutenable au sens où on n'arrive pas vraiment à les regarder, ou d'intenable en sens où leur circulation nous échappe. Donc, premier constat, qui n'est pas très original, on vit dans un moment, moi j'aime pas le mot de crise, peut-être qu'on reviendra sur ce mot de crise, je l'aime pas trop, donc je préfère parler d'insoutenable. Il y a toute une série d'insoutenables qui s'accumulent et qui nous tiraillent. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation ? Une réponse traditionnelle, qui est la réponse politique, c'est « il faut s'organiser dans des partis, des syndicats, et finalement prendre le pouvoir ». Tant mieux. Moi, j'essaye aussi d'avoir une certaine activité politique. En même temps, il me semble que cette forme de réaction à ces insoutenables par la politique, par les organisations politiques traditionnelles, ça toujours poser des problèmes, mais ça devient, c'est un petit peu moins crédible, ça fait une série de... c'est pas suffisant, ou alors ça patine, ou il faut essayer de prendre les choses différemment aussi. Pas du tout pour se dire les partis politiques ça vaut rien, ou la politique traditionnelle ça n'existe pas, c'est essentiel et ça existe, mais il y a d'autres façons de penser ou d'aborder ces problèmes de tension ou d'insoutenable. Et une autre façon qu'on entend souvent, c'est à travers des petits gestes. Et donc là, j'arrive finalement à cette notion de geste. C'est pas forcément en votant pour X ou en votant pour Y ou en allant mettre le feu à ceci ou mettre le feu à cela qu'on va forcément améliorer les choses. En revanche, on va commencer par recycler. Petit geste, plutôt que jeter tout dans la même poubelle, on trie, je disais tout à l'heure, filtrage, on devient soi-même une sorte de tri, on va filtrer, et puis on va jeter de façon sélective. Un tout petit geste, faites un petit geste pour l'environnement. Et à la fois, je suis très frustré par les gens qui nous disent « oui, c'est comme ça que le monde va être sauvé », c'est que chacun arrête l'eau en se brossant les dents, parce que c'est le gaspillage de l'eau qui fait des problèmes. Donc, il y a tout un discours qui nous dit « c'est les petits gestes qui vont nous sauver, et donc c'est chacun de nous qui devons nous réformer, et c'est que comme ça que la situation sociale, politique, géopolitique, je ne sais quoi, va s'améliorer ». Ça me semble pas suffisant. Il faut aussi faire de la politique traditionnelle. Il faut aussi se rassembler, se soulever collectivement. En même temps, je suis assez impatient et intolérant avec les gens qui méprisent complètement ces petits gestes. Ils disent « oui, mais ça vaut rien ». Non, ça suffit pas. On est bien d'accord que ça suffit pas. C'est pas en faisant du tri sélectif qu'on va sauver le monde. En même temps, on n'y échappera pas. Donc c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et donc à partir de cette idée, en plus de ce qu'on appelle des actes politiques, léninistes, comme ça, on prend le palais d'hiver, ou alors en Tunisie, dégage, on met à la porte des tyrans, en plus de ceci, qui est important, il y aurait une sorte de sphère plus petite, une micropolitique, une infrapolitique des gestes que nous faisons. Bon. De nouveau, pas satisfaisants, qui ne remplacent pas la politique traditionnelle, et pourtant qui sont politiques. Acheter une tomate, c'est politique. Si vous achetez une tomate qui est fabriquée à partir de produits chimiques dans le sud de l'Espagne avec des gens qui sont en situation néo-esclavagiste, acheter une tomate, ça nourrit ce circuit de production et de consommation néo-esclavagiste. Donc, c'est bien un geste politique que d'acheter une tomate qui vient d'ici, plutôt, qui vient d'un circuit court qui serait produite autour de Saint-Étienne, sauf que forcément, en décembre, vous ne trouvez pas de tomates produites autour de Saint-Étienne, donc, manger des tomates en décembre, c'est un geste politique. Donc ça, c'était un petit peu le début de la réflexion. On a renversé. Et puis après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un geste? On dit ce geste, voilà, mais qu'est-ce que ça consiste en quoi? Et c'est là où tu es intervenu de façon plus précise. Et là, j'ai envie de dire un geste, alors geste humain, j'ai envie de dire que ça se caractérise par deux choses. D'une part, que ce n'est pas complètement programmé. On peut imaginez ce qu'on va faire comme geste. Là, à côté de moi, j'ai un comédien. Un comédien, justement, il se programme à faire certains gestes chaque soir en représentation. Il a un metteur en scène ou pas qui lui dit quel geste il faut faire. Donc, on peut bien programmer certaines choses lorsqu'on fait des gestes. Et pourtant, mon intuition, mais là, vous la partagez ou pas, c'est de dire ce qui fait la valeur, le mérite, par exemple d'un spectacle de théâtre, mais ça va être plus généralement d'un geste, c'est que celui qui vient faire ses gestes, c'est plus qu'un robot qui fait des gestes. On peut apprendre à un robot à faire des gestes, on pourrait apprendre à un comédien ou à un robot qui te ressemble à prononcer un certain nombre de phrases et à faire un certain nombre de gestes, et pourtant si on va au théâtre, c'est pour voir que ce corps-là va faire un petit peu plus ou un petit peu autre chose que les gestes qu'on aurait pu programmer dans un robot. Donc, première intuition, un geste est humain dans la mesure où il excède, il outrepasse, il dépasse les programmes qu'on aura pu inscrire en lui. Et forcément, nous sommes tous programmés. Hein, là, je parle français, je me suis fait programmer par une certaine culture à parler, à faire du bruit, à faire des gestes avec ma langue et mes lèvres qui ressemblent à de la langue française. Et donc, forcément, ce que je fais maintenant, c'est programmer. Parce que, par mon éducation en langue française. On a choisi de bavarder, hein, d'échanger plutôt que je vienne. J'aurais pu me programmer à vous faire une conférence en mettant un PowerPoint, et puis en montrant des images, et puis en chronométrant mon intervention. On s'est dit, tiens, ça va être plus intéressant d'abord d'ouvrir rapidement vos questions, mais aussi bien justement de faire des gestes. Alors moi je gesticule toujours avec mes mains, vous en avez déjà aperçu. Je ne médite pas chaque petit geste que je fais avec les mains, et de même les phrases que je fais, je les produis au moment où je les fais. Ce qui fait que si vous les analysez, vous apercevez qu'il y a plein de choses non grammaticales, que je les finis pas, que je fiche en l'air des accords, etc., etc. Et c'est ce qui vous donne l'impression que je suis plutôt humain, plutôt qu'un enregistreur, plutôt qu'un robot qu'on aurait fait venir. Donc, première chose, un geste, c'est plus, c'est pas non programmé, mais c'est programmé et il y a plus que le programme, ça excède le programme. Deuxième caractéristique du geste, ça sait que c'est vu par autrui. Et là, de nouveau, l'exemple de Roland qui est acteur, un acteur, il fait des gestes pour un public. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de proposer un spectacle et puis qu'il n'y ait personne ce soir-là. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire une conférence et puis il n'y a personne qui est venu. Là, je suis très honoré qu'il y ait autant de gens qui viennent avec une soirée aussi ensoleillée. Donc, merci beaucoup encore d'être venu. Et ben, si on est tout seul dans la salle de spectacle, j'imagine qu'on ne va pas faire les gestes. Je ne sais pas. Peut-être que tu fais ça pour une conscience supérieure ou pour les murs de la salle.
Ça ne se fait pas, mais c'est vrai que le public participe à la qualité du spectacle. C'est-à-dire qu'il se passe, il y a une interaction entre la scène et la salle, et que des fois le public est très bon aussi, et ça aide bien les gens qui sont sur le plateau. Voilà.
Et donc justement, hein, donc non seulement faire un geste, ça sous-entend qu'on suspecte que quelqu'un puissent nous voir, au minimum, soit on sait que les gens nous regardent et que ce qu'on fait est visible, soit on suspecte qu'on puisse nous voir, et par ailleurs, on reçoit, le geste se constitue au fur et à mesure de ce qu'apporte, ce que lui apporte ceux qui nous voient, nous entendent, nous réagissent à ce qu'on peut faire. Donc ceci étant dit, ce que j'ai envie d'avancer comme thèse, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, où les machines, les technologies jouent un rôle de plus en plus envahissant, Et pour moi, c'est pas forcément catastrophique, hein. C'est pas une dénonciation de la technique ou de la machine. C'est merveilleux ce que les machines nous permettent de faire. Donc, en même temps, ça a des effets secondaires. Les avions, ça nous permet d'aller aux États-Unis, d'aller en Inde, d'aller un petit peu partout. Et en même temps, ça pollue, comme on disait tout à l'heure. Donc, rien n'est simple. Les ordinateurs, les téléphones portables, ça nous permet de trouver des informations en des fractions de secondes sur Internet et sur Google. En même temps, ça utilise de l'électricité. En même temps, ça fait qu'on est toujours un peu tendu pour répondre aux messages qu'on reçoit, etc. Donc, il y a toujours des choses positives et un prix à payer pour ces choses-là. N'empêche que les machines sont un petit peu partout. N'empêche que parce que nos interactions sont de plus en plus riches, de plus en plus complexes, doivent être ajustées de plus en plus finement, parce que justement nous dépendons de milliers de personnes, parce que des milliers de personnes dépendent de ce que nous faisons, cet ajustement est problématique et cet ajustement requiert de plus en plus de réglementation. On peut se plaindre à l'infini de la bureaucratie, on peut se plaindre de la juridicisation, du fait que plein de lois, de normes, depuis Bruxelles, depuis, j'imagine, la mairie, depuis Paris, précisent comment on peut, on ne peut pas construire une fenêtre à tel endroit. En même temps, alors on peut résister à ça, hein, je crois qu'il faut résister à une sorte de dérive technocratique, en même temps, on ne va pas y échapper, parce qu'on est de plus en plus à interagir de plus en plus finement, et donc il faut contenir un petit peu l'aléatoire, les sources d'accidents, les sources d'ennuis, etc. Donc, tout ça pour dire que on est nécessairement de plus en plus programmé, soit par les machines, soit par les lois qu'on doit se donner, et que donc défendre la gestualité, défendre ce qui nous permet de faire plus que ce pour quoi nous nous programmons ou nous sommes programmés, devient de plus en plus essentiel. D'où le titre « Geste d'humanité » pour dire « Nous sommes humains dans la mesure où nous nous donnons des structures d'interaction sociale qui laissent de la place aux gestes ». Et là, le contre-exemple, ça serait lorsque vous remplissez un formulaire en ligne, hein, ou lorsque vous téléphonez quelque part et que vous avez une machine qui vous répond, un service de réponse automatique. Vous pouvez presser 1, 2, 3, étoile, dièse, etc. Mais vous parlez à des machines, ça vous transforme vous-même en machine et vous n'avez plus de capacité gestuelle. Alors que si vous parlez à une personne humaine, ou si vous voyez quelqu'un, vous pouvez faire des gestes de comme... Je parle pas seulement ici de gestes physiques, hein, mais vous pouvez, la façon dont vous tournez votre phrase, la façon dont vous improvisez votre phrase, ça va faire une différence sur le résultat de la communication. Et donc, de défendre ces espaces de gestualité, tout en sachant que nous avons besoin, et de lois, de normes, de technocratie, de bureaucratie, dans une certaine mesure, et de machines, qui nous conditionnent à réagir d'une certaine façon, c'est cette défense de la gestualité qui me semble importante, éthiquement, politiquement et esthétiquement. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'esthétique? Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Qu'est-ce que c'est que toute la sphère des arts, justement? Ça serait de pratiquer des gestes. À la fois de nous donner à voir des gestes. Quand on va écouter un concert, on peut connaître plus ou moins par cœur la sonate de Beethoven, le thème de Thelonious Monk. Et ce qu'on va chercher dans un concert, c'est justement un geste humain, un geste physique, un corps qui vient sur scène et qui va jouer ça de façon un petit peu différente. De même que l'acteur joue le rôle de façon un petit peu différente chaque soir. Alors tout ça pour revenir au texte, là je reviens au texte que tu nous as lu tout à l'heure. Il nous disait quoi ce texte? Il nous parlait de combien y a-t-il de gestes, de mots à écrire, à prononcer pour mettre en confiance. Moi, ce qui me frappe, je pars de ceci, c'est, alors je sais pas si c'est votre expérience à vous aussi, mais donc tu as eu la gentillesse de dire que je suis dans une revue qui s'appelle Multitude. Les gens de Multitude sont disséminés sur différents endroits de France et de la planète, et donc on interagit beaucoup à travers du courrier électronique. On a une liste dans laquelle on interagit. Et on s'aperçoit, enfin moi ça fait une dizaine d'années que je suis là-dedans, que on a une peine énorme à ne pas s'engueuler, à ne pas rentrer dans des conflits mais violents, alors qu'ils restent toujours, jamais physiques, parce qu'on se voit rarement, et que ces conflits, en général, ils s'accentuent plus tard on répond aux mails, plus ça devient violent. et que les mets les plus cassants sont produits en général à 1h du matin, où on imagine que le type est crevé, qu'il a déjà réglé 50 problèmes, qu'il n'en peut plus, et il tombe sur ce mail-là, et là il répond aux 3/4 de tour, et que le lendemain ça repart comme ça. Et que donc, on n'a pas, par Internet, on n'a pas encore su développer, par courrier électronique, les gestes qui mettent en confiance. L'humanité a eu, je sais pas, des dizaines de milliers d'années pour apprendre à se mettre en confiance dans des interactions en face à face. Je vois vos yeux, je vois votre regard, je vois les très fines choses qui se passent sur un regard ou sur un visage humain. Et donc, si je parle en face à face, je vais voir, bah tiens, là, il sourit, donc il a compris que c'était un gag. Ou alors là, il a l'air surpris, donc je vais corriger tout de suite pour dire non, c'était une plaisanterie. Par Internet, on ne sait pas. On a eu 20 ans, 10 ans pour développer ça. Avant, on avait des lettres, mais les lettres, ça prenait du temps. Là, ça se fait en direct. Et ces conflits qu'on peut avoir par courrier électronique, en général, c'est X qui répond très vite, Y qui répond très vite, et puis ça s'enflamme. Il y a un facteur temps, il y a toute une série de choses qu'on n'a pas du tout eu le temps de maîtriser. De même, tout à l'heure, je parlais de démocratie. Est-ce que la politique patine ? Il me semble que la politique a toujours été quelque chose de complexe. Il y a toujours eu des gens qui mentaient plus ou moins, qui planquaient leur argent en Suisse ou pas. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça, c'est pas voilà. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Je sais pas. Est-ce que c'est aussi grave que ça ? Je sais pas. On pourra peut-être discuter. Ce qu'il y a d'absolument nouveau dans la politique, et ce qu'on ne sait pas du tout maîtriser, on sait pas, de même qu'on est complètement démuni face à des engueulades par courrier électronique interposé, on est largement démuni face à la masse médiatisation de la politique. Ça fait un siècle et demi qu'on a des journaux quotidiens, où on sait ce qui se passe un petit peu aux 3/4 de la planète, voilà. Donc ça, c'est déjà une nouveauté énorme. Ça fait 50, 60 ans qu'on a des télévisions qui non seulement nous donnent des informations, mais nous montrent des gestes, nous montrent des choses. Et donc, on ne sait pas du tout comment maîtriser cette communication, cette contagion de certains gestes, cette contagion de certains affects, de certaines émotions, à travers le médium télévision. Et donc, la politique s'emballe à nous parler d'âneries, de choses qui n'ont aucun intérêt, ou au contraire, à rater complètement des choses qui sont essentielles, à être toujours dans une sorte de mode d'alarme, d'alerte, de court terme, de dernière minute, de scandale, de je ne sais quoi, qui nous empêche de prévoir, de voir, d'essayer de régler des problèmes à plus long terme. Et ceci, soit on se dit, bah tiens, c'est une fatalité de la politique, hein, ça n'a jamais bien marché, les systèmes politiques démocratiques, et les autres encore pire, donc voilà, on peut se dire, c'est toujours un peu cafouilleux, on peut se dire aussi, ça devient dramatiquement cafouilleux parce que c'est pris dans des structures de communication masse médiatique, auxquels on ne réfléchit pas assez, qu'on pourrait peut-être réformer, qu'on devrait à mon avis réformer. Pour moi, le premier point de toute politique, c'est réfléchir à la façon dont les images, les paroles, les gestes circulent ou ne circulent pas à l'intérieur d'une population, et donc de commencer par réformer les médias ou les masses médias. Donc ces gestes, ces mots à écrire, à prononcer pour mettre en confiance, c'est la base même d'une communication. Avant qu'on puisse être d'accord ou ne pas être d'accord sur Cahuzac ou sur le nucléaire ou sur les OGM ou je ne sais quoi, ou sur les tomates, il y a d'abord des gestes dont on a besoin pour établir une confiance qui font qu'il puisse y avoir un dialogue ou pas. Donc, première chose que je reprends de ce que tu lisais, et n'hésite pas à m'interrompre, on a dit qu'on allait parler à peu près 45 minutes, 50 minutes, et qu'après on ouvrirait le dialogue. Ce texte aussi, je l'aime beaucoup parce que, et je ne le connaissais pas, hein, c'est toi qui l'a amené, parce que il nous parle beaucoup de recevoir, d'accueillir, d'inviter les formes. Hein, tout à l'heure, j'ai dit « je sers de récipient ». Et une autre intuition que j'aimerais partager avec vous, et vous me direz si ça vous correspond ou pas, et là, c'est un modèle un petit peu différent de celui de l'acteur, c'est que, de même que les gestes que je suis en train de faire avec mes mains de façon gesticulatoire, je ne veux pas les faire, ces gestes-là. Ils viennent tout seuls. Je les reçois. Mon corps les produit sans que je les fasse de façon préméditée ni consciente. Et il me semble que ce qu'il y a justement d'humain, de riche, hein, ce qui nous dépasse, je disais, qu'est-ce que c'est qu'un geste? C'est quelque chose qui dépasse les programmations, soit les programmations de l'extérieur, soit les programmations que j'ai pu faire de moi-même. Justement, ça nous dépasse parce que ça vient d'ailleurs, que de notre conscience réflexive, calculatrice, etc. Et donc là, lorsqu'il dit, combien y a-t-il pour recevoir, accueillir, inviter les formes, Fred II dit aussi dans la suite, ses membres l'aident sans qu'ils sachent à quoi. Ça, pour moi, c'est une définition remarquable des gestes. Nos gestes en savent plus que nous, très souvent. Alors ça peut avoir plein d'illustrations, par exemple marcher, vous savez qu'on dit souvent, hein. Si vous essayez d'expliquer à quelqu'un qui ne saurait pas marcher comment vous marchez, en donnant des consignes, hein, pour descendre un escalier, et on dit souvent que c'est la meilleure façon de se casser la figure, parce qu'en réfléchissant à la façon dont on doit bouger tel membre, tel muscle, telle chose, on n'arrive pas à le faire. Et il y a plein de choses où si on essaye de le faire de façon, en passant par une programmation justement, on n'arrive pas. Ce sont des gestes qui nous viennent, qui nous habitent, qui se font en nous, ce sont nos membres qui nous aident à faire certaines choses, comme nous déplacer, marcher dans la rue, monter un escalier, sans qu'on sache vraiment ni comment, ni finalement souvent sans qu'on sache à quoi. Autre remarque que je trouve très riche dans ce texte, il dit « Je fais usage de ce qui m'a été accordé hein, », de nouveau, ce qui m'a été accordé, je suis réceptacle, moi tout ce que je fais c'est de recevoir des discours que je lis chez des anthropologues, que j'entends à la radio, que j'entends de mes étudiants, que je lis dans la philosophie, donc hein, des choses me sont accordées, j'essaye de les faire circuler. Pourquoi, nous dit Fred II, pour célébrer ce qui est diffusé et ce qui est à infuser. Et ça, je trouve très beau. Célébrer ce qui est diffusé. La notion de diffusion, et là, on voit que ça revient un petit peu à ce que j'évoquais sur la télévision. La télévision, c'est quoi? C'est un mode de diffusion de quelque chose. Hein, avant, pour voir quelqu'un bouger en direct, il fallait être à côté de cette personne. Aujourd'hui, grâce à la télévision en direct, on peut voir quelqu'un bouger en direct, on peut voir Zidane marquer un but, on peut voir un tennisman en train de jouer un jeu à Wimbledon ou à Roland-Garros en direct, on peut voir ces gestes-là en direct, on ne pourrait pas les décrire ces gestes-là en direct, on peut écouter des matchs à la radio, mais c'est quand même beaucoup plus pauvre que de voir quelque chose. Donc la télévision, les mass médias nous permettent de diffuser des gestes en direct, des gestes en train de se faire. Et ça s'est jamais fait sous cette forme. Hein. Les acteurs, depuis les Grecs, les acteurs, on jouait le geste d'Antigone, qui dit non à Créon. On jouait le geste d'Édipe, qui se crève les yeux. Donc, on pouvait bien représenter quelque chose à distance. Édipe, il était mort, ou il n'a jamais existé, et puis il y avait des acteurs sur scène qui faisaient le geste de se crever les yeux. Donc, il y avait bien des façons de dire, mais c'était pas vraiment la personne, mais c'était pas en direct, c'était une autre forme de direct, etc. Aujourd'hui, on a cette chose merveilleuse, et en même temps dont les effets peuvent être calamiteux, qui est qu'on voit des gestes en train de se faire en direct. Donc c'est une question de diffusion. Et le mot de diffusion, il me semble très riche, parce que ça nous dit aussi que les choses ensuite, comment elles existent sous forme diffuse. Hein, c'est dans l'air. Là, tout ce qu'on a dit sur Cahuzac et compagnie, c'est diffus. C'est où? C'est dans nos têtes? Non, c'est entre nous, c'est un peu dans nos têtes, c'est un peu dans les journaux, c'était un petit peu dans les ondes, c'est un petit peu parce qu'on en parle toujours, c'est diffus autour de nous. Et des fois, ça se coagule. Lorsqu'on fait une phrase sur les politiciens aujourd'hui, etc., il y a toutes ces choses diffuses qui se coagulent, qui prennent forme, qui prennent une certaine réalité, puis qui vont faire partie de cette diffusion. Et le geste, c'est justement quelque chose qui coagule ce qui nous traverse, coagule ce qui nous diffuse, ce qui est diffus entre nous, ce qui est diffusé entre nous. Et donc la fin de cette phrase, il nous dit « Célébrer ce qui est diffusé et qui est à infuser ». Et peut-être moi, la dernière chose que je dirais, avant soit de reprendre la suite de tes remarques, le moment de l'infusion, hein, d'habitude on dit « infusion pour le thé », mais là je reprends un petit peu cette phrase que tu m'as proposée et je le mets en rapport, c'est Fred II qui le met en rapport, « diffuser, infuser ». Le moment de diffusion, c'est justement le moment de communication. les choses circulent entre nous. Et c'est bien, on apprend plein de choses. Hein. On sait aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut sur les jeunes générations qui ne sont pas instruites, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'orthographe, etc., etc. Jusqu'à présent, chaque génération a été plus sensible aux réalités, aux vérités du monde que les générations antérieures. Maintenant, on peut être sensible de beaucoup de façons différentes. On peut être sensible de façon très dispersée, très diffuse, justement. Et ce qui fait aussi l'humanité, et une des dernières choses que je dirais maintenant, c'est que le mot « geste d'humanité », il est ensemble à entendre de deux façons différentes, soit les humanités, voilà, les humains qui vivent sur la planète, mais aussi les humanités comme des disciplines, hein, des disciplines de pensée, des disciplines de recherche, étudier la philosophie, étudier la littérature, étudier l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc. Tout ça, on peut le regrouper si on essaye de classifier les domaines de savoir. Il y aurait les sciences exactes, il y aurait les sciences sociales, quantitatives, et puis le reste dont on ne sait pas très bien quoi faire, tout ce qui touche aux arts, à la communication, etc. On dit que c'est les humanités. Alors, pourquoi c'est important ces disciplines des humanités, qui sont bien aussi des formes de disciplines, même si leur discipline est différente de la rigueur scientifique quantifiable des chiffres, ces disciplines-là, me semble-t-il, elles nous sont nécessaires justement pour infuser. Et la logique de l'infusion, elle est directement contraire à la logique de la diffusion. Diffuser, c'est communiquer, c'est passer à travers des canaux, c'est répandre, c'est être sensible dans le présent. Infuser, au contraire, comme pour le thé, vous ne pouvez infuser du thé que si vous avez un verre qui isole cette quantité d'eau d'une rivière. Vous ne pouvez pas infuser du thé dans une rivière. Justement, il va se diffuser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire infuser? Ça veut dire que vous avez un récipient qui isole une partie du monde de ceux qui habituellement la traversent. Et j'ai commencé par faire une sorte d'éloge de la communication, d'éloge de toutes ces choses qui me traversent. Et je vous disais, ce qui est important, c'est de filtrer. Essayons de concevoir l'identité comme ce qui filtre toutes ces choses qui nous traversent. Et il y a des belles choses, il y a des choses horribles. On essaye justement de ne pas recycler les choses qui sont horribles, de ne faire continuer à faire circuler que les choses qui sont plutôt bonnes. Donc ça, c'est le moment de diffusion, de circulation, dont on fait forcément partie. En même temps, cet autre moment d'infusion est tout aussi nécessaire et il a des exigences. Les exigences, c'est par exemple justement de suspendre la communication. Là, j'aime bien reprendre un mot d'un philosophe que vous connaissez peut-être, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Gilles Deleuze. Et Gilles Deleuze disait, pendant des siècles et des siècles, le grand problème, par exemple, pour nous philosophes, ça a été le problème de la censure. On pensait des choses, et puis si on disait les choses qu'on pense, eh ben on se trouvait sur des bûchers, on se trouvait en prison, on avait plein d'ennuis. Donc les grands problèmes des siècles et des siècles d'histoire de la philosophie, ça a été la censure. Et il dit ça dans le début des années 90, aujourd'hui nos problèmes à nous philosophes, il aurait pu dire humanité s'il avait employé mon vocabulaire, le problème des humanités, c'est pas tellement la censure, quoique ça existe toujours, hein. Bon. Mais un autre problème au moins aussi grand, c'est qu'au contraire, on nous pousse toujours à communiquer. On nous pousse toujours, il faut s'exprimer, il faut parler. On nous sonde, on nous demande notre opinion. Et il faut résister à ça. Pourquoi il faut résister à ça? Parce que si on ne résiste pas, on n'est que dans un processus de diffusion, de communication, qui justement ne nous laisse pas être, ne nous laisse pas devenir quelque chose de singulier, d'unique, de particulier. On n'arrive pas à coaguler une personne, on n'arrive pas à coaguler une identité, on n'arrive pas à coaguler des gestes qui nous soient propres, si on ne fait que réagir à ce qu'on nous demande, si on ne fait que qu'accueillir et que recevoir et réagir dans l'immédiat, dans le direct, à ce qu'on perçoit. Et donc ce moment d'infusion, c'est de se dire, j'arrête mon téléphone, j'arrête la télévision, j'arrête ceci, et peut-être je prends un poème. Ou alors je laisse la télévision, mais j'arrête le téléphone et je ne parle pas à quelqu'un d'autre, et je me plonge dans un film, ou dans une émission de télévision, ou peu importe. Mais se plonger dans quelque chose en s'isolant de tout le reste, on voit que ça devient de plus en plus difficile. On se plonge dans les choses où on est obligé de se plonger pour son travail, pour ceci ou cela. En même temps, on a toujours tendance à regarder un écran ou à réfléchir à autre chose parce qu'on a 50 choses qui sont en train de cuire en même temps. Cette capacité cette capacité à pouvoir s'isoler, à pouvoir faire une vacuole. Je vous ai parlé de Deleuze, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Deleuze nous dit, une des revendications essentielles aujourd'hui, c'est pas tellement de pouvoir parler, comme la censure dans les siècles antérieurs, en tout cas dans nos pays à nous, et le plus souvent, de nouveau, parce que la censure, ça existe toujours, mais une revendication au moins si importante, c'est de pouvoir prendre, de pouvoir s'isoler, de pouvoir bénéficier, ou lui dit aménager, de pouvoir aménager des vacuoles de silence à partir desquelles on aurait quelque chose à dire. Et la vacuole de silence à partir de laquelle on aurait quelque chose à dire, c'est ce que j'essaye de, c'est ce que je retire de cette notion d'infusion, pas seulement diffuser mais infuser. Pour que le thé puisse prendre, il faut qu'il s'isole du courant de l'eau. Pour que nous puissions constituer des personnalités, pour que nous puissions, je reviens à mes gestes, être la source de gestes qui excèdent les programmes, qui excèdent simplement ce qui nous traverse, qui excèdent la réponse préconditionnée, comme lorsque vous téléphonez, hein, et après réponse 1, réponse 2, réponse 3, puis la machine elle-même, elle est préconditionnée à vous répondre ceci ou cela, pour dégager des espaces d'humanité, des gestes d'humanité, il est impératif de pouvoir dégager des vacuoles de silence, pas forcément de silence absolu, mais au moins des vacuoles dans lesquelles on ne se branche que sur une chose à la fois. Un livre, un film, ou une discussion téléphonique, ou 20 minutes avec son enfant en train de jouer à un jeu, etc., etc.
Et j'ai trop parlé déjà. Ça me fait penser à une improvisation à laquelle j'avais assisté à Vienne entre Chick Corea et John McLaughlin. Donc deux instruments, deux musiciens. Ils ne se sont pas préparés. Ils sont là sur scène. L'amphithéâtre est plein. Et ils se cherchent. Proposition musicale de l'un, réponse de l'autre. Et petit à petit, ils arrivent comme ça, à force de faire des propositions, contre-propositions. À un moment, on ne sait plus qui est celui qui propose, celui qui contre-propose. À un moment, ça y est, pof, ça passe, ça marche. Ils se sont trouvés. Et tous les deux, chacun à leur manière, arrivent à improviser. Chacun étant dans son style, mais ayant la capacité d'être perméable à l'autre, et le tout pour un public. Et c'est un peu à ça que ça me fait penser, parce que j'aime bien moi cette relation, on va dire, ce qui nous dépasse en tant qu'êtres sociaux, comme dans la notion champ social, comme on parle de champ électrique. C'est-à-dire que la façon dont on se comporte, nos attitudes, la relation à l'espace, la distance minimum qu'il y a avec l'autre ou la distance maximum, le fait que des fois, dans un groupe, on sent bien qu'on a une idée, on y tient, mais en fin de compte, elle ne passe pas, elle n'est pas entendue, parce que l'ensemble du groupe, dans une sorte d'inconscient social, c'est un terme qui existe, je ne sais pas s'il est encore utilisé, l'inconscient social ne permet pas à un moment à une idée d'émerger, elle n'est pas entendue, elle passe à la trappe, quitte quelques temps après à être considérée comme la meilleure idée. Voilà. Donc il y a cette sorte de chant, tout comme la gestuelle, la relation au corps. Quand moi je commence les cours de théâtre, je suis toujours surpris par le fait que, en fin de compte, les gens qui n'ont jamais fait théâtre ont des clichés théâtraux. C'est-à-dire qu'ils se mettent à jouer d'une certaine manière, comme si, en fait, d'un autre côté, il y avait eu une sorte de transpiration de la connaissance théâtrale malgré eux, et qu'ils en avaient, ils en étaient relativement imbibés. Alors il faut en fait dépouiller ça, enlever ces clichés théâtraux pour qu'à un moment, effectivement, le comédien ou la comédienne puisse arriver à jouer à partir de ce qu'il est. Donc se mettre en disponibilité, c'est bien une question de disponibilité, parce que le cliché, c'est contraignant, ça, c'est une sorte de cuirasse.
Et le cliché, c'est une façon de reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les programmes. Je parlais de technologie, de technocratie, de bureaucratie, etc. Les clichés, c'est justement des choses pré-cadrées dont on a besoin. On a tous besoin de clichés, ça ne sert à rien de dénoncer les idéologies. Hein. On a tous besoin de clichés. La plupart de ce qu'on connaît et de ce qu'on fait se base sur des clichés. Donc voilà. Et en même temps, ce qui nous spécifie, ce qui nous singularise, ce qui nous humanise, c'est les moments précisément où on arrive, mais c'est exceptionnel, à casser des clichés. Justement, ça c'est Deleuze aussi, toute la fin de sa vie, en parlant du cinéma, il disait qu'est-ce que c'est qu'un film intéressant? Qu'est-ce qu'essaye de faire la nouvelle vague? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis Rossellini, Godard, etc. à partir de 1950? C'est d'avoir conscience du fait que ce qui passe par des écrans, dans 99% des cas, c'est que des clichés, et peut-être que ça doit se faire comme ça. Hein. Pourquoi on fait du cinéma? Pourquoi le cinéma est un art? Parce que justement, ça nous permet de casser les clichés, de faire autre chose. Et ça peut se faire de façon très scandaleuse comme Godard, en disjonctant le son et l'image, donc quelqu'un est en train de bouger les lèvres et puis il parle pas, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça casse très 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 simplement ce cliché que ça, les lèvres ça bouge en même temps que ce qu'on entend. Donc on peut commencer par des choses très pratiques, puis casser des clichés sur ce que c'est que le chômage, sur des choses beaucoup plus complexes, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que l'amour. Mais ce travail de casser les clichés, toi tu le vis en tant qu'enseignant, hein, il faut commencer par les clichés pour pouvoir devenir soi-même un acteur qui, voilà, qui ait quelque chose à faire, c'est, ça me semble aussi faire partie de ce faire plus qu'il ne s'agit pas d'abolir, il s'agit pas, on ne peut jamais revenir en arrière, il s'agit de faire plus que le cliché, faire plus que ce pourquoi on s'est trouvé être programmé à faire. Et j'aimerais juste reprendre brièvement l'exemple que tu donnais de l'improvisation musicale. Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait. Merci beaucoup de l'évoquer ici, que ce soit en Chick Corea, John McLaughlin ou d'autres. Là, c'est le cas le plus clair, hein, des jazzmen qui choisissent d'improviser, à savoir qu'ils choisissent de ne pas se programmer avec des partitions qui... En même temps, ce sont des gens qui ont joué à partir de partitions pendant des décennies, qui ont justement accueilli, hein, qui ont reçu, qui ont accueilli, qui ont servi de récipient pendant des décennies à toute l'histoire du jazz, voire à l'histoire pour McLaughlin de la musique indienne. Hein, donc c'est dans la mesure où ils ont accueilli toutes ces séries de choses qui se sont stratifiées, qui ont infusé justement en eux, qu'ils peuvent se retrouver et faire quelque chose d'intéressant l'un avec l'autre. Moi, je peux prendre une guitare, toi, un piano, je ne sais pas comment tu joues du piano, on pourrait gratter des trucs, ça serait de l'improvisation. Mais parce qu'il n'y aurait pas toute cette programmation antérieure, on ne pourrait pas la dépasser. Et donc, ça aurait peut-être un intérêt, mais ça serait, j'imagine, ça serait un intérêt beaucoup plus limité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font lorsque deux musiciens comme ça jouent ensemble? Tu as dit, ils se cherchent, et finalement, ils se trouvent. Hein. Au début du concert, ils se cherchent, et puis on sent, de nouveau, comment on le sent, ça reste très mystérieux, ça reste une sorte de magie, une sorte d'alchimie. Tout d'un coup, on sent, bah, tiens, là, il se passe quelque chose, là, ils cliquent, là, ouais. ils sont ensemble. Avant, ils se cherchaient, hein, puis là, ils se sont trouvés. Ça peut durer une minute, ça peut durer une heure, mais ils se sont trouvés. Qu'est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, bouger ensemble? Ce qu'ils font, c'est bien bouger ensemble. Là, de nouveau, si on prend geste en tant que geste physique... Et ben il y en a un qui bouge, voilà, un plectre sur avec des cordes sur les doigts, l'autre qui tape sur un clavier. Ils bougent et ils arrivent à bouger ensemble. L'autre jour, je parlais aussi de gestes dans un autre contexte avec des amis. On se demandait finalement les gens qui prennent le métro. Moi, j'ai des expériences terrifiantes. Je ne sais pas si c'est la même chose à Saint-Étienne, mais si jamais vous voulez vivre quelque chose d'un autre monde, vous allez à la gare Saint-Lazare à 7h du matin ou à 6h30 du soir et vous regardez les flux. Tout à l'heure, je parlais de flux. Hein. Vous regardez les flux humains. Alors d'habitude, on ne les voit pas parce qu'on est dedans. Moi, je vais souvent là-bas et on est dedans, donc on ne veut pas rater la ligne 13 qui est toujours un. Donc on regarde les trucs, on évite les gens qui sont un petit peu lents, avec des poussettes, je ne sais pas, on les maudit parce qu'on a envie de passer plus vite. Et quand on est dedans, ben justement, on est flux, on est dans les flux. Alors on fait bien des gestes, hein, c'est bien des gestes, d'éviter, de marcher, comme je disais tout à l'heure, et on bouge avec, parce que c'est rare que les gens se fracassent les uns dans les autres. Donc ils ont bien une certaine... C'est même magique. Vous savez qu'il y a des gens qui passent des budgets énormes pour essayer de comprendre les flux de marcheurs. C'est quelque chose d'infiniment compliqué et ça montre à quel point notre corps a une conscience, a une attention, a une intelligence hallucinante pour qu'on ne se rentre pas les uns dans les autres à chaque pas. Donc là, il y a une forme d'intelligence et c'est une intelligence qui nous aide à bouger ensemble. Et pourtant, c'est très 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 différent de... Corey McLaughlin. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons, mais il me semble qu'une raison, c'est mon ami qui disait ça l'autre jour et je trouvais ça brillant, c'est très simple, et moi je trouvais ça vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Les autres, quand je suis dans la gare de Saint-Lazare, ce sont des obstacles. Ce ne sont pas des ennemis, je n'ai pas envie de les massacrer tous, quoique des fois ça m'agace, mais les autres, ils sont là, on bouge ensemble, et cette forme d'être ensemble, c'est un être ensemble avec des autres qui me gênent, mais que je vais essayer d'éviter. En gros, c'est ça. Et c'est important, parce que si on n'avait pas appris à faire ça, on pouvait... Lorsque McLaughlin et Correa, ils bougent ensemble, c'est bien de bouger ensemble qu'ils cherchent. Lorsqu'ils se cherchent, ils cherchent à pouvoir bouger ensemble. C'est pas en tant qu'obstacle. Ils visent un mode de bouger ensemble où ils ont besoin de l'autre pour mieux bouger. Ils ont besoin de l'autre pour bouger différemment, de ce qu'il a, pour faire de la musique. Correa peut faire un concert tout seul, et puis l'autre peut faire un concert tout seul. Et ils ont envie l'un de l'autre. Ils se choisissent positivement. L'autre n'est pas vraiment pas seulement un obstacle dans ton rêve qui disparaisse. Moi, quand je suis dans le métro, je rêve que tous les autres disparaissent. Comme ça, je pourrais m'asseoir, il y aurait moins d'odeur, etc. L'idéal du bouger ensemble dans le métro, c'est d'exterminer tout le monde. Là, au contraire, les musiciens, ça ne serait pas ça. Ça serait... au contraire, si on pouvait bouger à 5 plutôt qu'à 2, ça ferait encore des trucs peut-être mieux. Donc on a besoin positivement de l'autre, et c'est une forme d'être ensemble, de faire ensemble, de bouger ensemble, qui n'a rien à voir avec la première. Et c'est ça qui est éminemment désirable, qui est rare, mais de nouveau, on devient humain à travers ce type de geste-là.
Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de nos expériences esthétiques ? Parce que ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est que les expériences esthétiques ne sont pas simplement destinées aux esthètes. C'est la production artistique, avec des temps peut-être plus ou moins longs, c'est quelque chose, la production artistique est assimilée par l'ensemble d'une population. C'est un bien commun, un bien culturel. Alors, à un moment, effectivement, il y a une mise en avant, il y a des codes de reconnaissance dans des groupes d'individus, des sous-groupes, peut-être un petit peu élitistes dans les galeries, sur la production artistique de tel artiste, tel autre. Mais petit à petit, paf, ça se dissémine, comme tu disais, dans la société, ce qui fait qu'on retrouve, moi j'étais surpris de retrouver du Mondrian par exemple sur les maillots d'une équipe de cyclistes pour le Tour de France, où c'était des bombes de lac. Mondrian. Si on avait écouté un temps les critiques d'art, les impressionnistes, si on les avait brûlés comme ça de manière systématique parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans les salons officiels, on n'aurait pas cette admiration que maintenant partage un grand public pour les impressionnistes. Il y a toujours donc ce temps de décalage qui fait que quand tu parles de vacuole, c'est aussi une vacuole temporelle. À un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avant de pouvoir être diffusé un temps plus tard, parce qu'il y a ce temps comme ça d'assimilation. Alors, est-ce que tu peux développer cette histoire d'expérience esthétique en tant que bien culturel et en tant que objet de partage ?
Oui. Alors peut-être je prendrai un exemple dans le domaine que je connais moins mal, qui est celui de la littérature, et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire lire un roman. Mais finalement, je vais dire lire un roman, vous pourriez dire voir une série télévisée, ce ne serait pas essentiellement différent, voir un film, ça ne serait pas d'un certain point de vue qui m'intéresse, ça ne serait pas essentiellement différent. Du point de vue du geste, j'ai envie de dire, lorsqu'on lit, le geste il est minimum, hein. Enfin, ça dépend si on a une tablette, maintenant, en général, on tient quelque chose et puis on tourne les pages. Donc, et qu'on lise de la philosophie, qu'on lise un roman, du point de vue des gestes du corps, c'est pas là que ça se passe. Donc, premier déplacement que j'ai envie de faire, j'ai envie de dire, c'est bien encore d'histoire de gestes qu'il s'agit, lorsqu'on lit un roman ou lorsqu'on est assis, apparemment sans bouger, dans une salle de cinéma. C'est bien une question de gestes, mais c'est plus des gestes physiques. Je parle de gestes relationnels, des gestes psychiques, des gestes mentaux ou des gestes relationnels. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est Cinna, à la fin de la tragédie de Corneille, Auguste pardonne. Pardon, la clémence d'Auguste. En pardonnant, qu'est-ce qu'il fait Auguste pour pardonner ? Il dit des choses, donc il fait bien des gestes avec sa bouche. Il peut-être faire, je ne sais pas, un geste physique. Peut-être que Cinna est agenouillé devant lui et au lieu de lui couper la tête, il le prend et lui dit « lève-toi », etc. Donc il y a bien une dimension physique là-dedans. mais on comprend que c'est que voilà que c'est pas vraiment ça qui est important. Il pourrait parler sans faire le geste physique, il pourrait faire. Donc j'ai envie de d'élargir un petit peu la notion de geste en parlant de geste relationnel pour dire la fin de cette tragédie de Corneille, c'est le geste du pardon. Et le geste du pardon, on peut le représenter à travers un tableau, une illustration qui est sur la couverture de la première édition de Corneille. On peut l'exprimer à travers des mots, on peut l'exprimer à travers la gesticulation. Mais ce qui compte, il y a quelque chose de commun là derrière qui serait pardonner. Pardonner, c'est un geste. Aimer, prendre soin d'eux, etc. Tout ça, ça se manifeste à la fois par des gestes physiques et c'est des gestes relationnels. Donc si vous me suivez, en admettant que c'est des gestes relationnels, là, je repose ma question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit un film ? Ou qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit un roman ? La plupart du temps, on est pris dans l'histoire, on est dans une situation d'immersion. Et qu'est-ce que c'est qu'une situation d'immersion? Alors quelqu'un comme Brecht trouvait ça dangereux, et donc il nous disait non, il faut au contraire qu'on se distancie. Moi j'aime beaucoup Brecht, c'est très important de se distancier aussi, mais à mon avis, la plupart du temps, l'expérience que nous avons lorsque nous voyons un film, c'est qu'on est immergé dedans. Lorsque le héros risque sa vie, et bien notre cœur bat plus vite. Lorsque il embrasse la plus belle femme du monde, et bien on se détend un petit peu et puis on est content pour lui. Donc on vit, on palpe, on palpite hein, un petit peu en empathie. Tu parlais d'empathie tout à l'heure. Vivre une fiction à travers un roman, à travers une série télévisée ou autre chose, c'est faire par vicariance, par contumace, par l'intermédiaire du personnage, c'est faire ses gestes, à petite échelle, sans gesticuler par notre corps, etc. C'est vivre, plutôt que faire, je dirais, c'est vivre ses gestes. Et donc, une puissance énorme de la fiction, c'est de nous permettre de vivre de l'intérieur des gestes qui ne sont pas les nôtres. J'ai jamais été une sorcière condamnée au bûcher. À travers un film ou à travers un roman, je peux imaginer ce que c'est qu'une sorcière condamnée au bûcher. Je peux vivre de l'intérieur pardon, les affects, les émotions, hein, les relations, justement la situation relationnelle, les gestes qu'elle subit, gestes de haine, d'accusation, etc., même si j'ai jamais été dans cette peau-là. Et le geste, enfin les fictions, je dirais, les expériences esthétiques, dans la mesure où elles sont narratives, ça nous permet de vivre de l'intérieur des gestes qu'on ne vivrait pas autrement. Alors, en même temps, les expériences esthétiques ne nous illusionnent jamais complètement. On sait toujours qu'on est en train de lire un livre, on sait qu'on n'est pas en train de brûler sur un bûcher. Donc, la puissance des expériences esthétiques, c'est à la fois de nous permettre de vivre des gestes relationnels qu'on ne vit pas dans la vie réelle, et en même temps de les considérer comme des gestes. À savoir, on était parti tout à l'heure du travail du comédien. Le comédien, tu dis, il est entre les personnes et les personnages. Toi, tu as une personne. Le personnage que tu essayes d'incarner, ça se veut aussi une personne, avec une complexité psychologique, etc. Et puis, le personnage que tu joues, il est un petit peu entre les deux. Alors toi, est-ce que tu te prends pour le personnage? C'est le paradoxe du comédien. Est-ce que tu es du côté de Diderot ou pas? Ça, je ne sais pas, tu peux peut-être nous dire. Quand on lit ou quand on lit un roman, quand on voit un film, on sait qu'on est au cinéma, on sait qu'on est en train de lire un roman, donc on n'est jamais complètement immergé. On garde un pied en dehors et un pied dedans. Et cette situation très particulière, elle nous permet à la fois de l'empathie, on devient plus humain. Le titre, c'est « Geste d'humanité au pluriel », parce que moi, je suis convaincu que l'humanité au singulier, ça n'existe pas, et que si jamais ça existe un jour, ça serait terrifiant. Ça veut dire qu'on serait tous formatés de la même façon. On parle tous anglais, on est tous excellents, on est tous millionnaires ou top traders, etc. Et ça, c'est un monde d'enfer. Donc, les humanités, à mon avis, ça ne peut et ça ne devrait exister qu'au pluriel. Chaque individu est une petite portion d'humanité un petit peu différente. Chaque culture est une version de l'humanité un petit peu différente. Donc, geste d'humanité, c'est pour dire, il y a des humanités. Je reprends ça d'Edouard Glissant, qui développait beaucoup ceci. Et donc, ces immersions fictionnelles, elles nous permettent de vivre d'autres humanités de l'intérieur. Et en même temps, elles nous permettent de savoir que que ce sont des gestes, hein, que nous ne vivons pas vraiment ceci, que nous avons une possibilité de distance, que nous pouvons juger ces gestes-là, peut-être que nous pouvons devenir face à nous-mêmes des spectateurs. C'était Adam Smith qui disait, pas dans son texte économique, mais dans l'autre, que qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est de pouvoir regarder les situations en tant que spectateur impartial. Donc devenir le spectateur de soi-même, c'est une façon d'être un petit peu plus juste, peut-être même d'être un petit peu plus rationnel, même si ça passe pas directement par des analyses rationnelles. Et les expériences esthétiques, donc pour répondre à ta question, nous permettent à la fois d'être plus humains, au sens où on peut devenir autre que l'humanité étroite qu'on représente soi-même, et par ailleurs on devient plus humain aussi si on veut inclure dans la définition des humanités justement une capacité d'autocritique, une capacité de devenir autre chose que les limites qu'on a reçues de nos programmations. Tout à fait, oui.
Alors maintenant, nous vous passons la parole, c'est-à-dire que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est jamais évident. Donc...
ou des exemples, ou des contre-exemples, ou des anecdotes, ou des principes philosophiques que j'ai bafoués.
J'avais noté quand tu avais fait ta leçon inaugurale à Lyon, tout geste corporel correspond à un geste mental. Et on pourrait inverser ça, justement pour l'expérience esthétique, c'est que tout geste mental peut correspondre à un geste corporel. Et c'est en fait une des bases de l'empathie, c'est qu'effectivement, au niveau des sciences cognitives, on arrive à reconstituer, ou disons que ce sont les aires du cerveau qui d'habitude nous font nous mouvoir, qui au moment où quelqu'un souffre par exemple, sont en action, sont activées. Mmh. Et je pense qu'effectivement l'expérience esthétique est de cet ordre-là, enfin, c'est vrai que tu as... je me souviens dans des romans l'impression d'être, je sais pas, de galoper sur un cheval, de courir, d'être des choses comme ça, tout comme dans un rêve en fait, avec peut-être même cette forme d'épuisement à la fin de la lecture, comme si on avait participé à l'action alors qu'on était soit dans un fauteuil, soit dans un lit.
Merci beaucoup.